Excellente matinée à tous. Il est aussi question de sevrage tabagique ce matin. Alors, à savoir d'abord que la dépendance à la nicotine varie d'un fumeur à l'autre. Les sensations de manque ressenties lors du sevrage tabagique seront donc plus ou moins intenses en fonction de chaque personne. Alors, pour essayer d'y voir plus clair avec nous ce matin, docteur Anouar Reda, vous êtes psychiatre et addictologue à Casablanca. Bonjour docteur.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur Média. Alors on dit
Avec
que le
plaisir.
tabagisme est une toxicomanie qui tue à petit feu. Vous, en tant que spécialiste, dites-nous d'abord quels sont les dangers du tabac sur la santé.
Très bien. Donc, merci beaucoup d'avoir abordé ce sujet très intéressant. Et à savoir que la nicotine est une substance qui est très addictogène par rapport aux autres substances.
Oui.
C'est-à-dire qu'elle a un pouvoir addictogène très élevé et elle est aussi nocive, que ce soit sur la santé mentale ou la santé physique et organique. Pour les dangers du tabac, il y a notamment beaucoup de pathologies cardiovasculaires,
D'accord.
hypertension artérielle, l'athérosclérose qui reste un danger imminent à bas bruit, c'est-à-dire qu'il y a des bouchons, des athéromes au niveau des vaisseaux, et ce qui peut causer des obstructions vasculaires, causant ainsi des infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux ischémiques, ça au niveau cardiovasculaire. Il y a aussi beaucoup de pathologies cancéreuses,
oui,
que ce soit les cancers du poumon, de la langue, de la sphère ORL, de la vessie aussi, que ce soit le tabagisme passif ou actif, c'est-à-dire qu'on a reçu beaucoup de patientes, de femmes mariées à des hommes tabagiques, et qui ont développé des tumeurs de vessie. Donc, il y a l'impact sur l'appareil cardiovasculaire, les cancers poumons, vessie, sphère ORL. Il y a aussi un impact psychique et psychologique.
Oui.
C'est-à-dire que les gens qui consomment du tabac sont plus tendance à faire des dépressions, des troubles anxieux, des troubles de panique, associés aussi à la dépendance en elle-même, parce que la dépendance à la nicotine est une pathologie comme les autres.
Alors justement, vous avez parlé d'aspect psychique. Comment est-ce qu'on peut devenir complètement dépendant, accro à une substance, alors qu'on sait au fond de nous qu'elle peut être dangereuse pour notre propre santé?
Oui. Au début, lors de la première consommation, la plupart c'était des expériences d'adolescents, de jeunes. Mais s'il y a vraiment un besoin et la personne est tellement anxieuse, on trouve qu'il y a beaucoup, il y a trois paramètres qui sont importants. Le premier paramètre, c'est la personne en elle-même. S'il y a une vulnérabilité psychologique chez la personne, avec le deuxième point, c'est la substance en elle-même. Quand on a une accessibilité à la substance, donc ça facilite aussi la consommation. Et la troisième des choses, c'est l'environnement.
D'accord.
C'est-à-dire, si on prend une personne qui est vulnérable dans un endroit là où il y a du tabac et c'est facile d'y accéder, ces trois paramètres font de telle sorte que la personne commence à consommer et trouver du plaisir.
D'accord.
Donc, quand on trouve du plaisir, on a un système de récompense qui est activé. Et le système de récompense fait balance entre deux systèmes, le système réflectif et le système réactif.
D'accord.
C'est-à-dire, le système réflectif, c'est là où on peut agir sur nos pensées, nos besoins, dire que oui, je veux bien fumer, mais vu que c'est nocif, je vais
je ne
arrêter
le fais pas,
et
oui.
C'est pas bien, exactement. Mais si on a un système réactif qui est très actif et pulsionnel, et ceci va faire que la personne va commencer à trouver beaucoup d'alternatives, beaucoup de pensées alternatives pour contrebalancer les effets néfastes du tabac. Donc, tu vas trouver des gens qui sont dans une phase ils sont inconscients de leur addiction. Ils te disent que je consomme de temps à autre, le tabac, ce n'est pas très nocif, c'est une
substance
psychoactive.
Ils sont dans un déni, on va dire.
Exactement, ils sont dans un déni. Et selon la courbe de Prochaska, c'est une courbe qui suit les étapes d'addiction de la personne. Il y a le déni, il y a la phase de pré-contemplation où la personne prend un peu conscience mais ne veut pas arrêter. Il y a la phase de contemplation où la personne pense vraiment à arrêter et il y a la phase d'action.
D'accord.
Donc pour les personnes addictes, selon cette courbe, ils sont sur la plupart sont dans le déni. Même s'il y a des apparitions de certaines maladies cardiovasculaires, ils sont toujours dans le déni, vu qu'ils ont besoin de cette substance. Parce qu'à force de fumer, notre cerveau développe un mode de fonctionnement qui est un peu paralogique. C'est-à-dire qu'il a besoin de cette substance pour fonctionner normalement. Et
Justement,
c'est vrai que.
oui. Autour de nous,
Oui.
pour certains fumeurs, l'idée même d'arrêter de fumer provoque une véritable source de panique.
Exactement. À chaque fois qu'il y a une discussion dans ce sens, que ce soit avec des
C'est
patients,
ça.
avec des amis, tu vois qu'il y a vraiment de l'angoisse et de
Voilà, c'est
l'anxiété.
ça.
Déjà que prendre de la nicotine, c'est vrai que ça aide un peu à augmenter la concentration par moment, mais malheureusement, à force de consommer la nicotine, l'effet néfaste prend le dessus. Donc, quand on annonce à une personne qui est en déni qu'il doit arrêter le tabac, déjà le fait d'y penser, et là, la dépendance psychologique prend surface. Parce que la dépendance à la nicotine, on peut la diviser en deux. C'est une dépendance pharmacologique
Oui.
à la substance elle-même et une dépendance psychique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui luttent contre la solitude par le tabac, qui gèrent leur anxiété par le tabac, qui n'ont pas beaucoup d'amis et qui n'arrivent pas à socialiser, donc ils utilisent le tabac. Donc la consommation de tabac est utilisée comme étant un comportement de sécurité. Et quand on dit à une personne de ne pas fumer, il commence à remédier et déjà dans son neurofeedback, c'est enregistré dans son cerveau que une fois je suis stressé, je vais prendre une cigarette et mon anxiété va diminuer. Et c'est là où on tombe dans l'erreur.
Alors,
Parce que
oui.
vu que la nicotine est une substance addictogène, donc au début on a besoin d'une cigarette, après c'est deux cigarettes, après on peut aller jusqu'à un paquet, à deux paquets par jour. On est vraiment dans la pathologie et dans l'addiction à la nicotine.
C'est ça. Alors justement, est-ce que cette personne qui est énervée a réellement besoin de cette cigarette pour se calmer, ou est-ce que ce n'est pas tout simplement psychique?
Il faut dire qu'il y a deux façons de voir les choses. Tout d'abord, une personne qui est énervée. Et là, il a appris à travers sa consommation comme quoi fumer la cigarette apaise un peu l'anxiété et l'angoisse. Mais malheureusement, quand on fume une cigarette, on devient plus irritable,
Oui.
on devient plus tendu, on n'est pas
D'accord.
relâché. On devient plus anxieux. Et pour les gens qui sont des paniqueurs et qui font des attaques de panique, et une fois on consomme, une fois on consomme la cigarette, on a les symptômes de l'attaque de panique qui surviennent. On a la tachycardie, on a les vertiges, on a les troubles digestifs. Donc, c'est une fausse idée. Fumer une cigarette ne calme pas, mais au contraire, exacerbe l'anxiété et les angoisses et augmente aussi l'irritabilité et impacte aussi notre humeur. Parce qu'une personne qui est tabagique chronique a plus tendance à être dépressif.
Oui.
Donc, c'est pas vrai. Consommer du tabac n'est pas un moyen ou une solution de bord pour gérer les angoisses ou l'anxiété ou la calmer l'irritabilité, mais c'est juste. Vu que c'est une substance psychoaffective, la personne a plus tendance à consommer pour avoir beaucoup plus un ressenti émotionnel positif, mais malheureusement qui est biaisé et distordu. Ça veut dire que c'est pas vrai. La cigarette exacerbe l'irritabilité, les tensions nerveuses, l'anxiété et la panique.
D'accord, parfait. Alors, toutes les études le confirment, docteur Anouar Reda. Je rappelle que vous êtes psychiatre et addictologue. Alors, une forte volonté reste primordiale, selon ces études,
Oui.
mais un accompagnement médico-psychologique, psychique augmenterait les chances de réussite. Alors, quel est justement le rôle que doit jouer le médecin addictologue dans la lutte contre le tabac?
Très bien. Donc, première chose, il faut agir dans la prévention primaire. C'est-à-dire qu'il
D'accord.
faut essayer, en tant que médecin, on est responsable de sensibiliser les gens. On doit faire un travail de fond pour sensibiliser les gens qui ne sont pas encore addicts, c'est-à-dire faire une sensibilisation primaire, que ce soit dans les collèges, dans les lycées, dans les sociétés où il y a un grand nombre d'effectifs, dans les sociétés où il y a un travail stressant. Il faut agir à sensibiliser les gens à ne pas consommer, à ne pas devenir addict. Mais sinon, si on est face à des gens qui sont déjà addicts, à chaque fois dans notre entretien et dans notre rythme quotidien, on pose beaucoup de questions sur l'addiction, la quantité, la date de début de consommation. Et c'est là, c'est en fonction du stade du patient. Comme on a dit, selon la courbe de Prochaska, si le patient est dans le déni, on fait un conseil minimal. C'est-à-dire, on lui donne des conseils, des informations nécessaires, et l'objectif de ce conseil minimal, c'est l'encourager à venir en consultation une seconde fois ou un deuxième rendez-vous pour retravailler sur la volonté et la motivation. Si les personnes sont dans une phase de pré-contemplation ou contemplation, là, on fait beaucoup de travail sur l'entretien motivationnel et pour encourager les gens à être plus motivés. Et leur expliquer le processus de sevrage, les médicaments qu'il y a, les solutions qu'on a, comment gérer l'angoisse, l'anxiété, et les symptômes de sevrage, et les encourager à adhérer aux soins. Si
Alors,
les personnes sont dans une phase d'action,
oui.
là, on travaille sur la thérapie cognitive et comportementale plus les entretiens motivationnels et adapter les stratégies de prévention de rechute pour accompagner le patient, l'aider les moments difficiles pour ne pas rechuter.
Très bien. Alors, je profiterai de cette occasion pour parler des cigarettes électroniques. Est-ce que c'est véritablement un moyen de sevrage ou est-ce que vous y êtes sceptique, docteur?
Pour la cigarette électronique, il y a beaucoup de personnes et des études qui se font vers ce sens. Quand on parle de cigarette électronique, c'est vrai que ça paraît moins nocif, vu qu'il y a moins de goudron, moins de substances, parce que quand il y a le tabac, c'est pas que la nicotine, c'est une multitude de substances qui sont aussi nocives. Donc pour la cigarette électronique, c'est vrai qu'elle est moins nocive par rapport au tabac, mais tout dépend de la consommation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui consomment une cigarette électronique avec une recharge à 6 mg de nicotine. C'est-à-dire qu'ils consomment aussi la nicotine à forte dose. C'est vrai qu'elle reste un remède et un outil pour aider les patients, surtout s'ils vont utiliser une recharge sans nicotine pour combler la dépendance psychique. Et si les personnes restent sur une consommation élevée avec un dosage élevé de nicotine, là aussi on n'est pas vraiment sur la bonne voie. S'il y a des personnes qui vont utiliser la cigarette électronique pour combler la dépendance psychique, c'est OK, avec modération bien sûr, tout en restant, gardant un œil sur l'évolution des choses, vu que c'est nouveau, on est en train d'attendre s'il y a des résultats d'études qui vont se faire pour montrer est-ce qu'il n'y a pas une atteinte organique parallèle par rapport aux autres substances qui sont dans la cigarette électronique.
Parfait,
Mais ça
docteur.
peut être un remède pour la dépendance psychique.
D'accord. Alors, malheureusement, dans certains cas, on parle de rechute. Quelles sont les causes de ces rechutes? Et puis, est-ce qu'il existe une différence entre une défaillance et une rechute lorsqu'on arrête de fumer?
Normalement, en addictologie, la rechute est la règle. Il n'y a pas une personne qui ne va pas rechuter. Donc, c'est normal que, avec le temps, les patients peuvent rechuter. C'est pour cela qu'il faut faire vraiment une bonne évaluation psychiatrique et psychologique, traiter les comorbidités, les dépressions, les troubles de panique, les troubles anxieux, les troubles obsessionnels compulsifs,
Oui.
en parallèle avec le sevrage de tabac. Parce que si on travaille sur le sevrage tabagique et on laisse, par exemple, à une personne déprimée, et lui, pour lui, le tabac était un remède pour apaiser un peu ses souffrances. Donc, il va retomber dans l'addiction. Il va reconsommer. Donc, normalement, il faut traiter les deux. C'est une prise en charge bilatérale. C'est-à-dire, il faut traiter les pathologies psychiatriques sous-jacentes parce que la plupart des personnes qui consomment ou qui ont une addiction peuvent présenter ou la développer une pathologie psychiatrique. Donc, il faut traiter la pathologie psychiatrique, traiter l'addiction et améliorer les stratégies de prévention de rechute par des séances de psychothérapie associées. Donc, la prise en charge est vraiment multidimensionnelle parce que quand on parle de stratégie de prévention de rechute, il
Oui.
faut vraiment travailler aussi sur le rituel de vie, le mode de vie de la personne, ne pas aller fréquenter des personnes qui consomment, surtout le début du sevrage, ne pas aller à un café, parce qu'on t'en a dit tout à l'heure, quand on prend la personne avec la substance et l'environnement idéal, la tentation est très élevée, le système réactif prend le dessus sur le système réflectif et on tend vers la consommation.
Parfait.
Donc toujours travailler sur les stratégies de prévention de rechute et consolider le sevrage, et ceci prend un peu de temps et nécessite une prise en charge globale.
Alors, docteur Anouar Leda, je rappelle que vous êtes psychiatre et addictologue à Casablanca. Quels seraient, avant de nous quitter, eh bien, vos conseils à tous ces fumeurs qui nous écoutent et qui aimeraient une seule chose, c'est arrêter de fumer et surtout ne pas rechuter?
Très bien. On peut dire qu'actuellement, avec l'évolution de la médecine et des médicaments, on a beaucoup de stratégies, on a beaucoup de médicaments qui peuvent aider et soulager les angoisses, l'anxiété et aussi faciliter le sevrage. Donc, n'ayez pas peur du Krévin, n'ayez pas peur des traitements psychiatriques aussi, vu la stigmatisation de la psychiatrie et de la maladie mentale,
Oui.
n'ayez pas peur. Les médicaments ne sont pas nocifs et ne sont pas addictogènes et ils vont vous aider à mieux gérer. Et sachez très bien qu'en arrêtant la cigarette, vous aurez une meilleure qualité de vie. Je pense que c'est le temps. Ce n'est jamais trop tard. Et vous pouvez, au moins, même si on ne veut pas arrêter, faire une consultation au moins pour bénéficier d'un conseil minimal et être motivé. Et je pense que c'est à notre tour de sensibiliser les gens, de leur faciliter un peu l'accès à l'information et l'accès aux soins.
Parfait. Docteur Anouar Reda, je rappelle que vous êtes psychiatre et addictologue à Casablanca. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions sur Média.
Je vous remercie.
Et à très bientôt.
À très bientôt.